Je crois que concernant l'être que Daumal devenait au fil des années, le témoignage suivant de Roland de Renéville pèse d'un poids particulier. Son personnage devint de plus en plus pur. Il perdit ou gagna un temps infini, lui qui en avait si peu devant lui, à aider les autres. On venait le consulter comme un apôtre. Des gens qui se croyaient au bord du suicide, alors que le dixième des avantages matériels dont il jouissait eût représenté pour lui un luxe superflu, et qui cultivaient dans l'âge mûr des tourments réservés à l'adolescence, l'assaillaient de lettres ou de visites. Atteint d'un mal terrible, ne sachant guère de quoi il vivrait la semaine suivante, René Daumal s'arrachait à ses travaux personnels pour leur répondre, les recevoir, tenter d'éveiller en eux une lueur de conscience ou de courage. En un mot, Lanza del Vasto, on peut dire que René Daumal était une sorte de saint laïc.
C'est parfaitement vrai. Une droiture, une loyauté, une grande simplicité et un grand dévouement. Et une grande attention à toute question qu'on lui posait, cherchant la réponse et quelquefois calmant les gens, les rééquilibrant dans ses réponses. Lui-même, je ne dis pas que s'il me donnait l'image d'un saint, je m'imagine un saint très, très différemment de cela, mais pour un si jeune homme, c'était déjà un sage, capable de manier les idées abstraites. On n'aurait pas attendu un être aussi affectueux. Et on s'émerveillait de ces transports de joie, l'idée de vous revoir. Je le sais car j'ai vécu avec lui pendant plus d'un an à Marseille, ou plutôt près de Marseille, à Allo. Nous avions deux chambres mitoyennes, c'était pendant la guerre et pendant ces années froides et terribles. Nous étions l'un et l'autre dans l'extrême pauvreté d'ailleurs. Il y avait un petit poêle dans sa chambre et autour de ce petit poêle, nous nous réunissions tous les matins au lever et on parlait de tout à fait autre chose que de nos misères.
Est-ce qu'il parlait quelquefois de sa jeunesse ?
Oui, il parlait de sa jeunesse, il parlait de ses temps, il parlait de sa rencontre avec Salzmann au café, il parlait de ses camarades et de ses expériences si pénibles que tout le monde sait aujourd'hui, qu'elles sont connues, dont il était sorti, Dieu merci. Il était vraiment bien sorti, parce que pour quelqu'un qui avait été drogué, je ne l'ai jamais vu, même une cigarette à la bouche, l'auteur de La Grande Beuverie, je ne l'ai jamais vu devant autre chose qu'un verre d'eau, d'une sobriété extrême. Et je doute que ce fût seulement pour des raisons de santé.
En parlant de sa femme, Daumal a dit, quand il était jeune, « Je n'ai jamais pu comprendre les femmes, et au fond, même pas Vera. » Qu'en pensez-vous ?
Oh, je pense que peut-être il n'aurait pas dit la même chose un peu plus tard. Je sais qu'il avait beaucoup souffert par Vera autrefois, avant de l'épouser. Maintenant, une fois qu'il l'a eu épousée, je crois que c'était deux êtres très unis et qui se comprenaient très profondément. Et Vera, qui était beaucoup plus âgée que lui, l'a traité et en épouse et en mère. Et elle a été très dévouée, ça j'en suis témoin, aussi bien dans sa maladie qu'après sa mort, à sa mémoire. En outre, je dois dire que, étant le voisin de chambre de ce couple, je n'ai jamais entendu entre eux une parole plus haute que l'autre. Ça a toujours été des conversations élevées et un ton affectueux.
Je crois que, à un moment donné, Vera s'est convertie au catholicisme et que vous avez joué dans cette conversion un rôle important.
Et oui. C'était le temps où ils étaient un peu séparés du groupe de Gurdjieff. Et par conséquent, leurs oreilles étaient un peu plus ouvertes à d'autres voix. Et j'ai beaucoup insisté à cette époque-là. Et en effet, je l'ai mené chez des prêtres pour terminer, achever son instruction chrétienne. Et je suis son parrain. J'étais son parrain.
Mais en fait, est-ce que cette conversion a eu véritablement lieu, mais ne s'est pas poursuivie ?
Bon, après, je pense que quand ils sont revenus à Paris, ils sont retombés dans les griffes de qui vous savez.
En ce qui concerne Gurdjieff, on a pu dire que le génie d'Aumale avait été en partie stérilisé. Je veux dire, entre le moment de sa conversion et après, n'est-ce pas ? Il y a véritablement comme deux écritures et comme deux d'Aumale très, très différents et très marqués.
Maintenant, il est vrai que d'Aumale n'a pas été sous la coupe directe de Gurdjieff. Il l'a vu comme moi je l'ai vu, peu. Mais il n'en avait pas eu du tout une impression tout à fait contraire à la mienne. Il était plutôt sous la coupe des Salzmann. Dire qu'il était stérilisé, c'est très difficile à dire. Évidemment, les doctrines de Gurdjieff sont stérilisantes.
En 1938, René d'Aumale apprend qu'il a les deux poumons malades. René d'Aumale meurt le 21 mai 1944. Il est enterré au cimetière de Pantin, où il repose encore.
C'était La recherche d'une certitude, portrait de René d'Aumale, une émission de Michel Randon réalisée par Claude Roland-Manuel.